projet d'émission et tu pourrais devenir un des collaborateurs de Choc.ca dans notre programmation d'été 2016. Tous les sujets sont permis. Information, sport, environnement, politique, humour, musique, culture, contre-culture. Cet hiver, joins-toi à une équipe diversifiée qui axe son travail sur la découverte du monde sous un œil différent et qui nage à contre-courant de la culture de masse. Pour toutes les informations, www.choc.ca/s'impliquer. Les productions Nuit d'Afrique vous invitent au gala de la 10e édition des Célidors de la musique du monde. La distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde. Le jeudi 28 avril au Théâtre Fairmont dès 20h. Venez nombreux voter pour vos artistes coup de cœur, ceux qui seront consacrés Célidors d'argent et de bronze. Prenez part aux Célidors, le prix du public fait grandir le monde. Pour plus d'informations, célidors.com.
Pour prendre un verre entre amis, rien de mieux que le bar Grenade au coin de la rue Ontario-Est et Champlain. Le bar Grenade, une brasserie orientale tendance et branchée dans Ville-Marie. Avec nourriture d'inspiration asiatique, c'est l'endroit idéal pour vos 5 à 7 qui se terminent aux petites heures du matin. De plus, venez assister une fois par mois aux soirées luttes de choc.ca. Sans oublier de venir nous voir aux soirées Full Moon Party thaïlandaise lors des soirs de pleine lune. À quelques pas de la station Papineau, pour une ambiance explosive, le bar Grenade au 1603 rue Ontario-Est à Montréal.
Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Sur choc.ca.
Bonsoir, bienvenue à Pop en stock. C'est Pop en stock 93. Je m'appelle Hélène Lorrain et ce soir, on parle de Wikipédia, que personnellement, j'utilise vraiment à chaque jour. Là, je me pose une question, je le sors soit sur mon cellulaire ou sur mon ordinateur et j'ai les réponses à mes questions. C'est comme une manière valide de voir qui est avec qui et de faire une espèce de potinage, mais tu sais, c'est pas TMZ, c'est valide. Fait que moi, je me dédouane.
C'est pas TMZ,
ainsi.
Mais c'est quand même peu recommandé comme source dans des travaux universitaires.
Oh, ça, c'est bien vrai. Je pense qu'on va en parler.
On en parle
avec Rachel.
Tout à fait.
Autour de moi, j'ai André Péloquin.
Allô.
Qui est journaliste, producteur de contenu.
Oui, maintenant chef de contenu web mobile.
Wow! Félicitations.
Yes. Bonjour. Yes.
Rachel Hippolyte, une habituée maintenant.
Oui.
Et première, Sophie Croteau.
Une deuxième.
Deuxième! Désolée. Yes.
J'étais là à DTA au tout début.
Oh,
ça fait longtemps.
OK. Oui,
je suis très contente d'être là.
Sophie qui va venir aussi nous parler, en fait, de cette fonction qui s'appelle « Page au hasard ».
C'est ça.
Et j'ai vraiment hâte d'entendre parler de ça.
Moi aussi.
Donc, on va commencer avec André. André a écrit son mémoire de maîtrise sur Wikipédia.
Merci, Pop en stock, de me permettre de finalement justifier ce choix de sujet. Oui, j'avais fait un mémoire de maîtrise sur, finalement, l'évolution du médium encyclopédique de Diderot jusqu'à Wikipédia. J'abordais aussi Britannica et l'Universalis sur CD-ROM, mais c'était surtout axé sur Diderot.
Dans quelle année, ça?
Ça s'est terminé en 2007.
Okay.
Et je crois que j'ai commencé en 2005.
Deux ans, c'est correct, ça.
Ouais, mais je sais pas. J'essayais d'être vraiment comme droit comme une flèche et finalement, les aléas de la vie.
Oui.
Ben, comme Wikipédia, j'ai cliqué sur des liens, je me suis perdu. Merci à Thierry Cochrane, mon directeur. Merci beaucoup. Merci à mon directeur de m'avoir ramené l'endroit chemin sans trop de menaces. Alors oui, c'est ça. Et je crois que je vais commencer pour mettre un peu la table. C'est ça, ça a été vraiment une espèce de petite introduction un peu à ce mémoire de maîtrise et à Wikipédia qui a bien changé, mine de rien, depuis. Alors, ben c'est ça, c'est dans le fond la réponse préliminaire à ma question. Dans le fond, c'est est-ce que les différentes technologies utilisées au fil du temps ont vraiment amené du nouveau matériel, voire quelque chose d'unique à ce qu'est l'encyclopédie? La réponse préliminaire, c'est que les technologies n'ont pas encore réussi à faire une véritable différence parce qu'elles sont encore sous le joug de l'imprimé. Après tout, c'est comme la plupart des sites web de la toile adoptent la mise en page imprimée. D'ailleurs, on peut imprimer d'ailleurs des articles Wikipédia sans grand problème. problème. On peut sauver des versions PDF aussi. Et puis, c'est la mise en page, c'est encore très imprimé. Les CD-ROM viennent même avec des documents sur papier pour expliquer le fonctionnement sur l'ordinateur. Quoique avec la popularité croissante du multimédia, il est tentant de voir les encyclopédies bénéficiant d'un support informatique. Donc, où est-ce qu'on peut, on le voit sur Wikipédia, on peut glisser des extraits musicaux en format OGG. On peut avoir des GIFs animés aussi sur des mécanismes et d'autres choses corps qui peuvent des fois être douteuses. Alors, on peut voir un peu l'encyclopédie maintenant comme une espèce d'expérience multimédiatisée, voire multisensorielle. Je ne sais pas si un jour on va avoir Wikipédia, l'expérience VR. Je le souhaite. Ça serait vraiment passionnant.
Ça sent Wikipédia en odorama.
Ouh! Oh, c'est ça que je pense.
ça doit sentir fort. fait que c'est ça. Ma démarche, dans le fond, c'est juste que j'introduisais tout d'abord les quatre principales encyclopédies concernées. C'était celle de Diderot, Britannica, Universalis et Wikipédia. Je me concentrais surtout sur celle de Diderot, la pierre angulaire dans le domaine, et Wikipédia, la nouvelle sensation. Puis j'enchaînais avec l'élaboration de balises pour mieux les étudier. Là-dedans, il y avait la transmission de savoir, il y avait le support matériel, il y avait le dispositif référentiel et finalement la place du lecteur au sein de l'encyclopédie. Et c'est un peu de ça que je vais vous parler, mais ça va être moins délimité que dans mon mémoire. On s'entend que c'est un peu fourre-tout avant d'y aller avec vos chroniques plus pointues et plus intéressantes,
c'est
peut-être.
C'est pour ça que t'es en premier, André.
Merci beaucoup. Je mets la table. Gelling, ça, c'est les ustensiles. Alors, à une certaine époque, il y avait les auteurs, les chercheurs Robert Morrissey, Jack Everson et Mark Olson qui qualifiaient l'encyclopédie ou le dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, ça, c'est le nom de l'encyclopédie de Diderot, qui était une œuvre emblématique, problématique, monstrueuse et insaisissable. Ça, c'était dans le texte d'ouverture d'un recueil qui s'appelle « L'encyclopédie du réseau au livre et du livre au réseau ».
J'ai une petite question.
Vas-y.
Sais-tu c'est quoi l'année, à peu près, ou les années de l'encyclopédie de Diderot?
C'est
durant les Lumières?
Oui, c'est ça, exactement. C'est l'héritage du siècle des Lumières. Et là, c'est une méchante bonne colle parce que je l'ai oublié et je l'ai pas noté.
Ça doit être 17 quelque chose.
C'est dans ton cerveau quelque part.
Oui, c'est ça, mais il faudrait que je clique sur le lien et que je m'y
fasse. Faudrait aller sur Wikipédia!
Oui, exactement. En tout cas, si quelqu'un l'écoute à la maison, pour vous accompagner, ça serait une belle activité multisensorielle, justement.
Oui.
Alors, c'est ça. Et moi, dans le fond, juste pour vous lancer là-dessus, des siècles plus tard, on peut dire la même chose de Wikipédia. Wikipédia est emblématique d'une génération. Notre génération est démocratique, populiste, anti-élitiste, sauf à Pop-en-Stock, on s'entend. et aussi, Wikipédia est problématique dans sa transmission du savoir, parce que Wikipédia se compte en différentes versions plutôt qu'en différentes traductions. Par exemple, on va dénombrer des millions d'articles, plus d'un million d'articles en anglais. À l'époque où est-ce que j'écrivais mon mémoire, dans le fond, j'ai regardé du côté en langue cheyenne, il y avait 10 articles.
Okay, ouais.
Alors, si on ne parle uniquement que le cheyenne, on est un peu baisé. Wikipédia est monstrueuse au sein de son support matériel composé de matériaux souvent curieux et hétéroclites. C'est un peu une espèce de monstre de Frankenstein où est-ce que t'as du texte puis ça, des gifs animés. Et Wikipédia est également insaisissable dans son orientation intellectuelle qui peut autant être neutre qu'engagée. On va y revenir... je pense qu'on peut peut-être même en... Non, on va en parler plus tard.
Okay.
C'est ça, le régime de l'imprimé, exigeant une pensée plus linéaire, voire classique. L'encyclopédie Diderot, son parcours se veut plus simple. C'est de A à Z, et ça servait justement une espèce de fausse neutralité. Je vais y revenir dans pas très longtemps. Mais lorsqu'il est question de l'encyclopédie virtuelle Wikipédia, son cheminement est plus complexe, car plus libre, parce que sa construction est vraiment hyper liée. C'est des hyperliens.
C'est une arborescence. Là.
Exactement. Et c'est, comme je disais, c'est vraiment aller sur le pays des merveilles. C'est facile de s'y perdre. Chaque mot, chaque balise et thématique sont étroitement liés, formant un tout plus homogène et en constante évolution. Ainsi, cliquez par exemple sur la biographie de Brian May, puis se rendre jusqu'à la NASA, il y a un lien. C'est facile en plus.
Les blaireaux aussi.
Ah oui?
Brian May, les blaireaux, oui. c'est un fervent de la chasse aux blaireaux.
Ah. Mais ce qu'on en apprend des choses.
Exactement. Bon, ok, c'est un épisode sur Brian May finalement. Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est plus homogène qu'on pourrait le croire. Quelques mots sur le dispositif référentiel justement. Ben c'est ça, c'est le dispositif référentiel entre les deux ouvrages analysés n'a pas vraiment souffert du décalage entre ceux-ci, là, même des années plus tard, là, tout est dans tout. En ce qui concerne Wikipédia, plutôt que de miser sur l'ordre alphabétique, quoique la fonction y est aussi, le lecteur de Wikipédia doit choisir sa version du site, anglais, français, espéranto. Il y a, à l'époque, il y avait plus de 200 versions de Wikipédia. L'utilisateur peut ensuite entrer le nom de l'article ou encore du sujet intéressant dans la barre de recherche, un peu comme on fait avec Google. Et lorsque le sujet est commun ou que plusieurs résultats nébuleux sont recueillis, l'internaute est amené à faire un choix dans la page de résultats. Par exemple, si on rentre les termes nouvelle vague, on va avoir autant des pages sur le courant cinématographique que sur le groupe de musique du même nom. Et ben ça, c'est avec l'encyclopédie Diderot, c'est de A à Z et il faut feuilleter là-dedans, point à la ligne. Et ça permettait de quand même cacher quelques surprises. Depuis tantôt, j'en parle, j'y reviens, ça sera pas très long. Le rôle du lecteur dans ces deux encyclopédies-là, ben ça, c'est un exercice qui est plus indistinct, car on doit prendre en considération la participation de l'internaute au sein de cette encyclopédie en ligne qu'est Wikipédia. L'interaction se veut même double, car il y a autant une relation didactique entre le lecteur et l'œuvre, donc on est lecteur de Wikipédia, qu'on peut aussi participer. Alors, c'est pour ça que l'engouement est tel qu'on surnomme les personnes qui jouent dans les tripes, finalement, de Wikipédia, les Wikipédians, ou les Wikipédiens en français, j'imagine. Justement, en ce qui concerne cet esprit communautaire-là, on dénote la création en février 2004 d'une section communauté, lien qui, à l'époque, était au deuxième rang du menu de Wikipédia entre la page principale et l'actualité du jour. Là, maintenant, ça a baissé un peu, mais c'est quand même très présent sur la page principale lorsqu'on a choisi sa langue. Cette section permet aux utilisateurs de se rassembler autour d'une thématique commune et de se répartir certaines tâches, comme les mises en page, la correction et ainsi de suite. Et aussi, je ne sais pas si vous pouvez aller jusqu'à creuser jusque-là, mais quand on clique sur des noms d'auteurs, il y a des personnes qui peuvent autant noter tous les articles sur lesquels ils ont collaboré ou qui ont corrigé des trucs, qui peuvent ajouter, par exemple, font partie, par exemple, de cercles d'auteurs qui s'intéressent à des articles sur la culture queer, ou il y en a qui vont mettre des images, par exemple. Moi, c'est difficile d'être pro-guerre, mais il y en a qui vont mettre des signes de paix, vous dire qu'ils sont pro-paix. Il y a quelqu'un qui avait mis aussi, j'ai pas gardé son nom, mais c'est dans mon mémoire, si vous voulez le lire, une personne qui avait mis une illustration d'un renard parce que c'est son animal préféré.
Et... Donc, ça devient comme une espèce de réseau social.
Exactement.
C'était avant Facebook, bien entendu.
Exactement, aussi. Oui, mais c'était comme le penchant académique de MySpace. Oui.
En fait, j'ai même découvert hier dans mon dédale de recherche qu'il y avait maintenant la Wikifauna. Wow. Si vous cherchez ça, en fait, il y a plus d'une centaine de titres qu'on peut avoir en tant qu'éditeur de Wikipédia.
Ah.
Donc, je vous parlerai d'un certain type tantôt, mais c'est comme, mettons, Wiki-Elf. Puis là, quand t'es un Wiki-Elf, tu fais une certaine sorte de modification. Quand t'es un Wiki-Orc, tu fais un autre type. Quand t'es un Wiki-Troll, tu fais juste mettre le bordel dans Wikipédia. Donc, okay. c'est super fascinant.
Aïe.
Ben, voyons.
La Wikifaune.
C'était pas là dans mon temps. Mais, par exemple, ben, pour revenir à ça un peu, cette espèce d'engouement, justement, communautaire pour la chose, il est tel que maintenant, il y a des fans... ça suffit plus de collaborer en ligne. On se voit aussi en vrai. Il y a certains Wikipedians qui se rencontrent en personne mensuellement pour discuter de l'encyclopédie en ligne et de la technologie l'entourant dans le cadre de Wednesdays. Je suis francophone. ça se tient chaque premier mercredi du mois dans les grandes capitales de ce monde. Londres, Paris, Toronto, New York. Je crois que ça se fait aussi. Il y en avait à l'époque à Montréal. Je crois qu'il y en a encore.
En fait, c'est les mardis, c'est Wiki, ça se tient.
Oh.
C'est le mardi, c'est Wiki, ça se tient à la Grande Bibliothèque.
Okay.
À Montréal, l'édifice de la Grande Bibliothèque, et les formations donc se donnent à des plages horaires précises. Bon, j'en profitais pour lancer les affaires que j'avais. Cool. Donc, c'est ça, puis c'est donné par divers formateurs. Il y a quelqu'un qui s'occupe de ça principalement à la Grande Bibliothèque et donc il y a plusieurs formateurs, dont un qui est un ami à moi, en fait, puis qui m'avait parlé de la chose, puis qui m'avait dit que ce qui est super intéressant avec les mardis Wiki, c'est que il a été surpris de voir les gens venir quand même. Il y a plusieurs personnes qui reviennent, non seulement une, mais deux et même trois fois pour poursuivre leur formation sur Wikipédia. Donc, c'est les mardis à Montréal.
Wow. Ah, mais moi, j'ai une question de base.
Oui.
Je ne sais même pas s'il y a quelqu'un autour qui peut répondre. Wikipédia, ça se base sur le système Wiki.
Oui.
Qui est en fait un système d'édition, je crois, en ligne.
Oui.
C'est bien ça. Donc, là, il y a Wikipédia, parce que c'est comme une espèce d'encyclopédie, mais on peut faire aussi... Moi, j'ai vu des Wiki, des Simpsons, de Futurama...
Ça, c'est un produit dérivé qu'ils ont lancé un peu plus tard. tard, parce que Wikipédia, c'est sans profit. Mm-hmm. Et Wikia, justement, c'est la série Wikia. Okay. C'est justement à profit. Il y a des bandeaux publicitaires qui s'affichent là-dessus. Puis c'est ça, c'est vraiment, on peut prendre des univers et construire des mini-encyclopédies autour de ça, plus poussées peut-être que ce qu'on pourrait retrouver sur Wikipédia. Il y en a sur les Simpsons, par exemple.
Oui, oui.
Et c'est ça, pour pas que la page soit interminable, ben, il y a des personnes qui se sont rassemblées pour juste faire une encyclopédie sur les Simpsons, qui est quand même assez complète, merci.
Oui, oui.
Mais c'est ça, c'est que pour payer le trafic et tout ça, ben ça, il y a des bandeaux publicitaires.
Ah, voilà, merci.
Puis pour certains wikis, tu sais, c'est des wikis, tu sais, Wikipédia, c'est ça, c'est un truc à but non lucratif et public, donc où tout le monde peut collaborer, puis il y a certains wikis qui sont aussi privés, où est-ce que tu as un administrateur, dans le cas, par exemple, pour des profs, par exemple, tu as l'administrateur qui va être le prof, et là, tu as les élèves qui bâtissent leur truc.
Ah! Mmh.
Ouais. Mmh. Puis je vais creuser là-dessus tout à l'heure.
Excellent.
Mais c'est ça, donc tu peux avoir une personne qui administre, les élèves qui collaborent, et à ce moment-là, c'est réservé exclusivement pour la communauté qui participe à ça. Voilà. D'où le fait que ça peut être utilisé comme un outil d'apprentissage ou d'évaluation parce que ça reste fermé.
Puis en marge aussi des Wiki Tuesdays, finalement, ça a changé de jour. Il y a aussi les Wikimania, c'est la première conférence internationale Wikipédia. La première s'est tenue à Francfort en août 2005. Puis ça, par exemple, un autre truc, on en parlait tantôt, ça c'est Wikipédia, c'est une encyclopédie qui est finalement en théorie, qui est assez accessible à tout le monde, eh bien, c'est faux. Évidemment, ça prend une connexion Internet, mais il y a des facteurs économiques et religieux. Si, par exemple, les facteurs économiques et religieux d'antan faisaient en sorte que la majorité des Français n'avaient pas accès à l'encyclopédie Diderot, c'est réservé à l'élite, maintenant, c'est la politique internationale contemporaine qui fait en sorte que Wikipédia n'échappe pas à la censure. Par exemple, la portion chinoise de Wikipédia a été censurée par le gouvernement communiste à la veille du 15e anniversaire de la prise de Tiananmen, justement, parce que le monde était très excité. Ce qui nous amène à la neutralité.
Mais, j'ai une question. Oui. Est-ce que tu es au courant si on pouvait aller lire l'article sur la crise de la place Tiananmen en anglais? En Chine?
Ah, ça, par exemple, j'imagine que peut-être que par le biais de VPN, c'était possible, mais en théorie, c'était Wikipédia au complet qui était bloqué. Là.
Ah oui, OK.
Oui. Si je me rappelle bien, il faudrait que je regarde mes notes de bas de page. Mais ça, ce qui nous amène un peu à la neutralité, parce que si la... Ben c'est ça, il peut y avoir des censures extérieures, comme on le disait, avec le gouvernement chinois, mais il y a certains Wikipédians qui peuvent provoquer aussi la censure de l'intérieur. On l'a vu notamment récemment avec le Gamergate. Mais ça, on s'entend que j'ai des exemples qui datent un peu avant ça. Alors ça, bien que la plupart des articles téléversés sur le site sont rédigés d'un point de vue neutre, certains n'échappent pas à la partisanerie ou au choc des idéologies, par exemple le christianisme, le judaïsme, la présidence de George W. Bush, Adolf Hitler, Saddam Hussein.
Les changements climatiques aussi, je pense.
Ah, j'imagine.
C'est une page qui est fréquemment changée.
J'imagine. J'imagine que en ce moment, ça doit être le bordel sur la page de Ray, le personnage de Star Wars. C'est ça, toutes ces pages-là ont été la cible de ce qu'on appelle à l'interne des edit wars, des guerres d'édition finalement, où des auteurs finalement vont mettre des faits peut-être erronés ou partisans des fois qui vont être ensuite enlevés par d'autres. Et aussi, vu que la technologie Wiki est assez flexible, il peut y avoir des retouches et carrément du vandalisme. Il y a même des gens qui vont pousser l'audace à créer des entrées qui sont entièrement factices, ce qu'on surnomme en anglais des viral entries. C'est arrivé notamment à la BBC, par exemple. Il y a des personnes liées de près ou de loin à la distinguée institution britannique qui ont rédigé le 12 août 2005 la biographie d'une défunte pop star du nom de Jamie Cain. Et ça, c'était dans le but d'une chasse au trésor en ligne pour la section jeunesse du site de la radio qui jouait un peu sur la vérité et la fiction. Puis c'est ça, c'est évidemment Wiki étant un Wiki avec ses tonnes de bénévoles à l'affût. La duperie a duré que quelques heures. Mais quand même, c'est ce genre de pratiques qui font en sorte que des gens comme par exemple Robert McHenry, qui est un ancien rédacteur en chef du Britannica, qui dénonce le statut encyclopédique, là je mime des guillemets, qu'on attribue à Wikipédia. Et alors, bien que ça, que l'idée d'inclure anyone, tout le monde, est aussi démocratique qu'altruiste, ça esquinte du même coup la rigueur intellectuelle exigée des encyclopédistes plus classiques, je mime encore des guillemets.
Ça, là, c'est vraiment comme... J'aille ça, ce genre d'argument-là, vraiment.
Mais c'est ça, mais en même temps, tu sais, je veux dire, ça date pas d'hier, parce que justement, dans l'encyclopédie de Diderot, qui était surnommé, ben ça, c'est le legs du siècle des Lumières, et qui était surnommé aussi par des gens qui ont étudié, finalement, ce monument, c'était surnommé une machine de guerre, parce que dans des articles, on s'entend où est-ce que personne allait vraiment lire, genre sur des fougères ou des trucs du genre, mm-hmm. on cachait vraiment des camouflets qui dénonçaient les pouvoirs en place à l'époque, ou l'Église. Mm-hmm. Alors c'est ça, c'est une façon de véhiculiser des idéologies de gauche dans une encyclopédie, finalement, dans une certaine bourgeoisie. Alors c'est ça, oui, on peut le dénoncer que chez Wikipédia, finalement, qu'il y a des idéologies qui passent, que c'est pas totalement neutre, mais ça, c'est que ça date pas d'hier. Et là, c'est ça, dans le fond, c'était un peu mon introduction, parce que je vois que le temps file et je voudrais laisser à mes collaboratrices le temps aussi de se lancer là-dessus. Alors j'aimerais ça... vous entendre là-dessus.
Ben,
sur vos sujets, je veux dire. Pardon. Excusez-moi.
Il y avait, je trouve que le lien entre le passé puis le présent, comment il peut y avoir des liens entre ce que Diderot a fait puis ce qui se fait aujourd'hui. Puis les mêmes, c'est ça, le même genre de récrimination qu'on peut avoir contre peut-être Diderot qui était un peu, je pense qu'il était un peu tout seul à comme essayer de collecter le savoir du monde.
Oui, exactement. Puis il y avait
c'est sûr que c'était imparfait. Puis là, quand on est en gang, c'est encore imparfait. Puis j'avais déjà lu à quelque part qu'il y avait après le même taux d'erreur sur des articles pris au hasard, soit dans l'Universalisme et donc une encyclopédie bona fide, bien reconnue. Et c'est très, très valide, très légitime. Et Wikipédia, des articles pris au hasard, il y avait le même taux d'erreur qui était à peu près de 2%.
Ah, quand
donc,
même.
Mais je pense que même si c'est très démocratique, les gens ont le souci que justement les informations soient justes. Fait que ça va être tout n'importe qui l'écrit. Les gens ils sont fiers de Wikipédia puis ils veulent écrire du contenu qui est valide. Donc, il y a ça aussi, je pense, qui rentre un peu aussi dans le...
Je trouve que c'est le fait que ça soit collectif, c'est comme une des meilleures garanties que l'information soit
Je suis sûr que Diderot, il aurait bien aimé Wikipédia.
Ah, il aurait trippé.
C'est un bon dude. C'est un bon Jack.
Un bon Jack.
Un article, c'est Simpson, je capote!
Donc, Rachel, tu nous as un peu introduit de quoi tu vas nous parler plus tôt, mais tu vas nous parler des technologies dans l'éducation.
Oui, tout à fait. Donc, de l'utilisation, précisément de l'utilisation de Wikipédia en milieu scolaire, parce que à part de l'étudier dans un but universitaire, comme M. Péloquin ici...
Bonjour.
Ou ne pas l'utiliser dans
ne pas l'utiliser,
pour des citations.
Mais ça va s'en venir. Il y a certaines utilisations que certaines universités ont tenté de Wikipédia encore plus que... comme source, mais carrément comme outil pour remplacer des mémoires et des thèses, ça s'en vient. Donc, on peut utiliser, c'est ça, les wikis comme outil d'apprentissage. Puis, pour explorer le thème de cette utilisation-là, j'ai interrogé à la fois des profs, des anciens élèves qui ne le sont, des anciens élèves ou étudiants qui ne le sont plus, et des conseillers pédagogiques pour couvrir du secondaire à l'université. Je me suis rendu compte qu'au primaire, évidemment, c'était pas très utilisé. En tout cas, s'il y en a qui écoutent, ben je serais intéressée de savoir, mais de mes propres collègues, ça a pas bien marché. c'est voilà.
OK.
N'est-ce pas? Au secondaire, donc, pour ce niveau-là, j'ai interrogé deux personnes qui sont des amis, là, full disclosure. Une qui s'appelle Marie Pilon, qui est enseignante au secondaire... qui a enseigné à la fois l'histoire, le monde contemporain, et actuellement aussi le français à la Châteauguay Valley Regional High School à Homestown, dans le creux cron de la Montérégie. Et Jean Desjardins, qui lui est conseiller pédagogique au Collège Sainte-Anne à Montréal, une école privée. Dans le cas de Marie, de Madame Pilon, elle l'a utilisé dans un cours de sciences sociales, donc le cours de monde contemporain dont je vous parlais, un cours d'histoire, avec 5 groupes. C'était une utilisation de Wikispaces et non pas de Wikipédia pour les raisons qui s'en viennent tout à l'heure. Et c'était un wiki par groupe, donc un sujet en particulier,
par groupe, par exemple, ça pouvait être sur la Deuxième Guerre mondiale, par exemple. Un, c'était sur l'environnement, etc. Et à ce moment-là, donc, les élèves se choisissaient un sujet, un sous-sujet parmi le grand sujet, et élaboraient là-dessus en équipe de deux. Pour Wikispaces, comme je le disais, je le rappelle ce que je disais plus tôt, c'est vraiment une plateforme qui crée des wikis, et l'enseignant devient l'administrateur. Donc, ça reste fermé. Et à ce moment-là, donc, c'est un groupe qui est réservé pour le groupe
élaborer
exact.
Des pages wiki. Ouais.
Exactement. Donc, elle a relevé plusieurs avantages et inconvénients de la lorgnette de prof, bien sûr. Il va avoir la lorgnette du conseiller pédagogique plus tard. Donc, un des avantages, c'est que ben ça intéresse les élèves, puis les jeunes aiment ça parce que c'est un projet technologique. T'as aussi l'utilisation de l'audiovisuel, comme tu parlais, André, du sonore, des gifs, même de vidéos, par exemple. Aussi, comme prof, ce qui est intéressant, c'est que les plateformes donc enregistrent les modifications qui sont faites à travers les wikis et qu'on peut surveiller, un peu entre guillemets, les élèves avec les pseudos. Donc, on sait que l'élève a le pseudo, je sais pas, moi, Angel Fire 82.
Totalement.
82, c'est un peu vieux.
OK, là.
92.
96. Pas, ouais. 98, OK, bon. Ouais. Bref, on comprend le principe. Puis de savoir que Angel Fire 98 est relié à Hélène Bourgeois. Hein? Bon. C'était une blague. Oui, j'essayais de trouver un nom. Alors, autre avantage, comme c'est en ligne, ben évidemment, le travail peut se faire de la maison, ce qui est quand même un avantage pour l'apprentissage et la réalisation des travaux des élèves. Un des inconvénients, étonnamment, on peut penser, ces enfants-là sont nés à la fin des années 90 et on pourrait penser qu'ils sont à l'aise avec les technologies et pas tant que ça. Ils sont pas tous à l'aise avec la technologie, avec l'outil Wikipédia, étonnamment. Donc, ça demande du temps pour le prof.
Le temps de formation.
Le temps de formation, oui. Évidemment, cette formation-là peut être réutilisée à d'autres fins, entre autres pour la vérification des sources. Ça peut être c'est une formation qui reste utile, mais longue. Autre inconvénient, c'est que, bon, Wikispaces, comme Wikipédia, offre des espaces de discussion. Donc, en théorie, les élèves peuvent échanger, s'appuyer, se relayer et se relancer sur des sujets, etc. Mais l'affaire, c'est qu'il faut s'assurer du respect des interventions des autres, un peu comme avec les adultes dans le cas de Wikipédia. Et dans l'expérience réalisée par Mme Pilon, il n'y a pas un élève sur 130 qui a parti une discussion. Toutes les discussions qui ont été parties sur les projets de Wiki l'ont été par elle et non pas par les élèves. Donc,
j'imagine qu'ils se parlaient sur Facebook à côté.
C'est probablement ça. Forums. Exact. Ouais. Au lieu d'utiliser le forum fourni pour l'occasion. D'ailleurs, plusieurs de ces problèmes-là, entre autres pour le respect des interventions, reviennent au niveau postsecondaire. J'y reviendrai. Dans le cas du conseiller pédagogique que j'ai interrogé, M. Desjardins, pour lui, en fait, il trouve que l'écriture collaborative via des sites, où est-ce que, dans le fond, tu co-construis, mettons, une histoire ou quelque chose, que ça donne peut-être des meilleurs résultats que Wiki, surtout pour l'interaction avec les élèves. Justement, pour contrer le fait que, ben, certains élèves, ben, interagissent pas vraiment entre eux. Marie le faisait remarquer aussi qu'elle s'est beaucoup plus tournée vers ce genre de site que plus que vers Wikipédia. En fait, elle allie les deux. Par contre, M. Desjardins juge qu'il est important de connaître le fonctionnement de Wikipédia, vu l'importance que prend la littératie numérique à l'école et dans la société en général. Petit rappel sur ce qu'est la littératie numérique, c'est un peu comme la littératie tout court. C'est le fait de comprendre, analyser et pouvoir lire, je mets des gros guillemets, et
décoder, on peut dire.
Ouais, décoder, merci, Hélène. De décoder le système informatique et comment les rouages informatiques de base, comme Internet, par exemple, n'est-ce pas? Donc, il y a que c'est important de connaître son fonctionnement et qu'en plus, ça développe des bonnes pratiques pour inciter les jeunes à vérifier leurs sources et à vérifier les infos grâce à cette fonction où est-ce que tu peux retracer les changements qui ont été faits sur la page.
L'historique, là.
Mm-hmm. L'historique, tout à fait. Il y a aussi des apprentissages informels et des bienfaits informels qui peuvent en être tirés. Évidemment, ça incite, vu que tu collabores à Wikipédia, ça incite les jeunes à veiller sur la véracité du sujet, de leur sujet, qui ont du sujet choisi. Contribuer à Wikipédia peut valoriser les élèves, comme tu parlais, Sophie, de la valorisation, de faire un travail bien fait via Wikipédia. Les élèves aussi peuvent en bénéficier. Et ça valorise les passions des élèves. Surtout si tu choisis pas le sujet pour eux et que tu leur dis, bon, ben voilà... tu dois faire ou collaborer à une page Wikipédia, choisis ce que tu veux. Ça peut être une valorisation pour eux que leur passion est valide, la tape dans le dos. De M. Desjardins, donc le conseiller pédagogique, préfère Wikipédia à Wikispaces pour à peu près les mêmes raisons que Marie, la prof. C'est-à-dire que pour lui, Wikispaces ne sert pas un réel but parce que le but pour lui de faire des wikis, ce serait que ce soit public, justement, qu'il y ait une réelle interaction publique. Tandis que la prof, elle, c'est l'inverse. C'est le fait de...
Que ça reste privé.
Que ça reste privé, donc qu'il n'y ait pas de gens qui effacent ou des trucs comme ça. Bon, ce qui pourrait arriver... dans un wiki public comme Wikipédia.
Oui,
pour le postsecondaire maintenant, j'ai interrogé Simon Villeneuve, qui est un prof d'astronomie et de physique au cégep de Chicoutimi et qui a aussi fait des charges de cours à l'Université du Québec à Chicoutimi. Depuis 2009, Monsieur Villeneuve monte avec ses élèves des pages Wikipédia sur divers termes astronomiques. Il se bâtit une liste, dans le fond, de choses qui n'ont pas été faites au fil des ans, puis il lance ses étudiants là-dessus, soit d'ameuter les pages ou de carrément les créer, en général. Les bénéfices... de ça, d'un point de vue pédagogique, sont à peu près les mêmes que ceux relevés par les intervenants au secondaire que j'ai cités plus tôt. Ça apprend donc aux étudiants à valider les sources disponibles en ligne et de les évaluer, d'évaluer leur pertinence. C'est la réalisation d'un travail significatif pour eux et ça les sensibilise aux droits d'auteur. Donc, de pas s'approprier quelque chose de cité par un autre. Plus...
Mais c'est moins droit d'auteur que propriété intellectuelle.
Que la propriété intellectuelle, tout à fait. Il parlait de droit d'auteur, non, je le cite, là, c'est qu'il parlait de droit d'auteur, mais t'as raison que c'est probablement plus...
Question pour reconnaître les sources, finalement, c'est pour les payer.
Okay, ouais.
Exactement. Oui, donc aussi un truc plus spécifique... au cégep, aux études après le secondaire, ça confronte les travaux des élèves en dehors de la sphère scolaire, puis c'est probablement au cégep la première fois que ça leur arrive de vraiment se faire, pas rentrer dedans, mais de se faire, c'est ça, confronter à un travail qu'ils réalisent dans leur cours. Et aussi, ça les familiarise avec la syntaxe wiki, ce qui est une approche douce de la programmation qui peut être évidemment utile dans d'autres sphères de la vie et de profession.
Ça rend le tout vraiment concret. T'sais, quand les étudiants disent « Ah, oh, ça sert à rien ce qu'on fait là », t'es comme « Ton travail a une portée au-delà de... »
Exactement. C'est aussi un des aspects qui est relevé par ces étudiants dans un questionnaire qui fait passer à ces étudiants à la fin de ses cours. C'est justement le côté concret. C'est ce qui accroche plusieurs élèves, plusieurs étudiants.
Penses-tu que c'est ce côté concret-là qui fait que, par exemple, sur Wikispaces, il n'y a pas de conversation lancée par les étudiants? Je ne sais pas.
Oui, ben peut-être, dans le sens où, parce qu'il n'y a peut-être pas cette interaction-là de l'extérieur, qui se sentent moins obligés de justifier leurs choses, probablement. Ouais. Ils pourraient avoir un lien.
Okay.
Ça pourrait exister. Un des inconvénients, parce qu'évidemment, il n'y a pas que des bénéfices à l'utilisation de Wikipédia, même au cégep. Un des inconvénients, l'approche par projet accroche beaucoup moins certains étudiants. Encore une fois, nous pourrions être surpris parce que l'approche par projet est valorisée au secondaire, d'où ces étudiants en sortent, mais en tout cas...
Il y en a eu trop!
Il y en a eu trop! Ils sont écœurés, c'est ça, exactement. Évidemment, ben, comme au secondaire, le prof doit encadrer les étudiants pour leur création de pages wiki. Et comme au secondaire, le prof doit maîtriser Wikipédia pour pouvoir appuyer ses étudiants et les former. Il y a donc, comme je disais tout à l'heure, il y a un questionnaire à chaque session, à chaque fin du cours en question, du cours d'astronomie où est-ce qu'il utilise Wikipédia. Simon Villeneuve distribue un questionnaire à ses étudiants où il pose plusieurs questions, des questions plus factuelles pour se bâtir des statistiques, ton nom, ton âge, le programme dans lequel les étudiants sont, mais aussi des questions sur leur appréciation de Wikipédia. Et c'est sur la page Wikipédia du projet pédagogique en question. Et lire ça, c'est super intéressant parce que t'as à la fois les statistiques des élèves, mais t'as aussi les commentaires du prof sur « Ah, telle chose n'a pas fonctionné, je devrais améliorer ça. Telle façon d'aborder la chose n'a pas marché, donc pour l'année prochaine, je vais faire autrement. » Puis, il y avait plusieurs problèmes qui revenaient au fil des ans. Entre autres, la suppression de contributions par d'autres utilisateurs, non seulement des utilisateurs extérieurs, mais aussi carrément des utilisateurs de la propre classe, que c'est, dans le fond, tu fais de la gestion, là. Tu fais de la gestion de classe.
Okay. À travers Wikipédia.
À travers Wikipédia, ce qui n'est pas toujours le
Great.
Fun.
Ouais, c'est ça.
C'est comme en tout cas. Le projet, comme je le disais plus tôt, par rapport au fait, comme l'approche par projet accroche moins certains étudiants, le projet Wikipédia comme tel en effraie plusieurs. D'ailleurs, il y a un fort taux de désinscription au début de chaque session. Il y a une quarantaine d'élèves, puis ça baisse à 30, mettons, de 45. Une année, il y en avait 43, puis ça baissait à 31, parce que les élèves n'étaient absolument pas motivés par la chose. Ça leur fait peur. Aussi, intéresser les filles à ce projet-là est pas facile. Ce commentaire est revenu à plusieurs reprises lors des évaluations, non seulement pour une année précise, mais vraiment tout au long de l'année, ce qui le confronte et ce qui est important, même pour Wikipédia en général, ce qui confronte à la représentation homme-femme sur Wikipédia.
Oui, c'est ça. On a aussi des statistiques là-dessus en général.
Exact. Il y a des statistiques. Il paraît que les contributions des femmes sont de 18 % de ce que le conseiller pédagogique me dit. Donc, c'est même pas un cinquième.
C'est ça. C'est dommage.
Oui, tout à fait. Et donc, c'est un des problèmes, puis c'est là-dessus qu'il aimerait beaucoup se tabler. D'ailleurs, il m'avait écrit pour me dire que c'était quelque chose qu'il avait essayé de discuter dans la Wikisphère avec des gens, puis on dirait que ça accroche pas les gens, que ça ne les préoccupe pas, cette si faible contribution des femmes.
Je sais pas parler à travers mon chapeau ou citer quelque chose de un peu faux, mais je sais que j'avais lu un article qui disait que c'est quand même un milieu assez sexiste, Wikipédia, puis qu'il y a beaucoup de problèmes par rapport à ça, puis du bashing, justement, de
gars qui veulent...
Garder ça en clic, là.
Moi, ce qui peut-être effraie les étudiantes ou n'importe quelle femme, ouais, là.
Mais c'est moins peut-être garder ça en clic que juste qu'en général, les femmes sont généralement considérées moins valides et légitimes.
Je retrouve l'article à ce moment. Vous regardez ça, c'est sur The Atlantic, là. C'est un article qui a été fait justement sur l'hostilité aux femmes sur Wikipédia.
Ah oui?
Ah ben?
On va mettre ça en lien.
Certainement. Oui, donc c'est un problème sur lequel lui essaye de se tabler, puis c'est ça, il avait essayé de relancer là-dessus des discussions, puis il en était plutôt déçu, là. Un travail inachevé. Remarque avait d'ailleurs été dite par le conseiller pédagogique au secondaire que j'avais interrogé. Pour avoir la lorgnette d'étudiant comme tel, j'ai lancé un appel à tous sur Facebook, réseau social bien connu, et un de mes... OK. Puis donc, un de mes amis racontait son expérience avec Wiki pour le concept de l'infini. Donc, il expliquait qu'il y avait eu une équipe de deux et que c'était une approche historique, puis il avait trouvé ça pertinent de voir surtout l'évolution du projet dans les mois qui ont suivi. Je veux faire un bref truc sur les publications universitaires et... puisque je trouve ça vraiment intéressant. Il y a eu un article qui avait été publié qui expliquait qu'en 2013, il y avait des universités polonaises et ukrainiennes qui voulaient permettre, avec qui ont monté un projet pilote pour permettre la rédaction d'articles Wikipédia au lieu des mémoires ou des thèses. Ce projet-là, donc, avait été mené à l'école polytechnique de Kharkiv, je m'excuse de la prononciation pour les Ukrainiens qui peut-être écoutent.
On sait jamais.
On le souhaite.
On nous le souhaitons. Et donc, c'était un projet où est-ce que, à partir d'une banque de 23 sujets, dépendant de ton domaine de spécialisation, tu pouvais choisir de faire un article Wikipédia. Et le coordonnateur du projet, Sergei Petrov, disait que contribuer à Wikipédia augmente considérablement la motivation des étudiants, puisque les articles peuvent être lus par le monde entier, et non pas seulement par leurs superviseurs universitaires et leurs pairs.
Ben, ça retouche à qu'est-ce que tu as déjà dit, justement, qu'on voit l'utilité de ce qu'on fait immédiatement.
Mon Dieu, moi, je l'aurais fini en 2 ans, mon mémoire, ça aurait été sur Wikipédia.
Écoute.
Et pas trop tard.
Et non. Puis le questionnement sur Wikipédia, sur la fiabilité des sources, est-ce qu'une information glanée collectivement est-elle plus ou moins fiable qu'une information imprimée, se pose dans des rédactions d'articles universitaires, en fait. Un de mes amis avait écrit... compositeur qui a fait une maîtrise en composition à l'université au conservatoire a écrit un article pour la Société québécoise de recherche en musique, la SQARM, et il a écrit son article où est-ce qu'il a cité un bout de Wikipédia mm-hmm. dans son article qui exposait un courant d'un projet de compositeur, et ça a soulevé la controverse à la Société québécoise de recherche en musique, parce que c'était considéré comme pas sérieux. Et lui, ce qui amenait de l'avant, c'était le fait que c'est ça, en quoi l'info glanée collectivement était le plus ou moins fiable, en se disant, ben au moins, si même s'il y a un taux d'erreur de toute façon dans les publications actuelles, même imprimées, donc au moins la définition de Wikipédia est claire. Puis c'était, bon, il m'a dit qu'il était plus ou moins en désaccord avec lui-même, mais il reste que les questions qu'il soulevait étaient intéressantes. Est-ce que c'est questionnable, ça peut être questionnable sur la co-construction? Donc, est-ce que de construire un savoir peut-il être valide en citation universitaire, évidemment sur la fiabilité, sur l'approche qu'on peut adopter lors de la rédaction d'un article à l'aide de Wikipédia, et évidemment de la définition de Wikipédia comme savoir collectif. Est-ce que ce savoir collectif-là est plus ou moins valide, et est-ce qu'il est plus ou moins fiable dépendant du domaine dans lequel on l'utilise? Donc, évidemment, ça peut amener plein de questions Wikipédia d'un point de vue scolaire, puis voilà.
Wow! Ouais. Mais il y a aussi beaucoup de programmes, juste pour qu'on... Il me semble, justement, des programmes qui existent. Wikipédia a eux-mêmes monté un programme pédagogique qui propose... aux classes qui voudraient l'utiliser. Là.
Tout à fait. Mm-hmm. Cela existe. J'en avais d'ailleurs entendu parler lors des Mardis C'est Wiki, j'allais dire en privé, là, mais tu sais, en demandant aux formateurs, à 2 formateurs de Mardis C'est Wiki, mm-hmm. si cette possibilité-là existe. Et oui, effectivement, ça existe.
C'est quand même génial.
Ouais.
Habituellement, on a tout le temps des petites chansons pour... faire la suite entre les différentes chroniques, mais aujourd'hui, on n'en a pas. Mais André, dans notre groupe Facebook, là, parce qu'il faut s'organiser, on est sur Facebook, a mentionné qu'il y avait un genre Wikipédia.
Oui.
Donc, et là, on a découvert qu'il y avait des chansons qui sont écrites à l'honneur de Wikipédia, mais en fait, ce sont des espèces de parodies, donc des chansons déjà connues, des mélodies déjà connues, puis les paroles sont changées pour rendre hommage à Wikipédia. Et parmi les titres que j'ai remarqués, juste comme parler de ça un peu, je trouve ça vraiment intéressant.
Ouais,
il y a Edit Me, qui est Let It Be, en fait.
Oh my God!
Et là, il y a des paroles complètes. Donc, il y a.
Let It Be!
C'est beau!
Il y en a qui fonctionnent vraiment bien. J'ai chanté We Are the Users chez moi tout à l'heure, qui est We Are the Champions. Ça fonctionne bien, mais il y en a qui fonctionnent vraiment moins bien, comme Administrative Dreamin', qui est California Dreamin', mais il y a comme une
Ouais. Un petit
pied de trop, ouais, c'est administrative dreaming.
Ça
ne fonctionne pas. Hotel Wikipédia.
Oh mon dieu!
Il y a User pour loser de Beck.
Oh boy.
Puis ça, au lieu de dire soy une perdedor, il dit soy un utilisateur. I'm
a user, baby.
Ouais, je pense que c'est ça, exactement. Et il y a même une chanson de Coldplay. ben, comme une espèce de reprise, Block You, au lieu de Fix You.
Oh mon Dieu.
Donc, hey, on peut partir un cover band?
Oui, on peut partir un, absolument.
Je sais pas trop, là. Faut enregistrer
moi,
ça.
Moi, je chante, je fais la tambourine, c'est sûr.
C'est bon.
Mais c'est tout le temps aussi autour des mêmes thèmes, donc le fait qu'il y a des utilisateurs, des éditeurs, de bloquer les autres. Donc, on remarque souvent le même genre. Ah oui, j'avais eu aussi une parodie du Haut-Canada, que c'est Wikipédia.
Oh, mon Dieu.
Ça aussi, ça fitait pas. J'essaie de chanter,
oh,
ça fitait pas.
Dieu.
C'est peut-être parce que je ne connais pas assez mon hymne canadien.
Peut-être.
Non.
Tu chantes à l'anglaise, que ça fonctionne.
Ouais, c'est ça.
Donc, Sophie, tu veux nous parler de la page au hasard.
La page au hasard, qui est la meilleure façon, selon moi, de découvrir Wikipédia. Puis je pense que, justement, ça aurait été la fonction préférée de Diderot, parce que, mm-hmm. tu sais, lui, il était pour, justement, tout le savoir, mais là, c'est tout le savoir à portée de main.
Et au hasard.
Donc, qu'est-ce que c'est? Je sais qu'il y a quand même quelques personnes qui connaissent pas cette fonction-là, à mon grand désarroi, mais je suis là pour vous le faire connaître. Et ceux qui le connaissent, j'espère vous apprendre des choses, parce que justement, moi-même, qui est une grande fan, j'ai appris beaucoup. Donc, la fonction de page au hasard, il y a plusieurs façons de l'accéder. La première, la plus simple, c'est d'aller sur la page de Wikipédia et dans la colonne de gauche, vous cliquez, si vous êtes un utilisateur en français, sur page au hasard ou en anglais, « random article ». Les autres façons d'y accéder, c'est en ajoutant après l'adresse de Wikipédia spéciale 2.random. Là, vous allez pouvoir tomber comme vous voulez. Donc, si vous voulez justement l'ajouter comme page d'accueil, qui est vraiment une des fonctions les plus fun, page d'accueil de votre navigateur web, vous pouvez tout simplement rentrer cette adresse-là et profiter de savoir random à chaque jour.
Matin.
Wow.
À chaque matin.
C'est beau.
Et vous perdre avant de faire quoi que ce soit. Vous allez complètement oublier pourquoi vous aviez ouvert
c'est
votre...
C'est pour ça que je le fais pas.
Ouais.
C'est dangereux.
C'est très dangereux. Il y a une autre façon aussi, certains navigateurs comme Chrome, Firefox, vous pouvez faire Alt, Shift, X et vous allez pouvoir tomber sur un article au hasard. Ce qui est assez fascinant déjà de cette fonction-là, c'est qu'elle n'est pas conservée dans l'historique de votre navigateur. Donc, si, par exemple, vous tombez sur un article et là, vous recliquez sur page au hasard, si vous faites un retour en arrière, vous ne pourrez pas retrouver l'article que vous aviez sur lequel vous êtes tombé.
Une nouvelle page au hasard.
Ça va être une nouvelle... Non, en fait, ça va juste revenir qu'importe où vous étiez avant de cliquer sur page au hasard, là, peut-être sur la page d'accueil, justement, de Wikipédia. Donc, aucune trace de ce savoir que vous avez acquéri. Il faut tout le stocker dans votre tête parce que sinon, il disparaît à tout jamais, pas de façon de le retrouver. Et il y a aussi... Oh, mon Dieu, excusez,
le micro
tombé.
C'est comme étrange.
c'est étrange, je vais le tenir, je vais faire ça.
Ah oui,
parfait. Comme ça.
Ouais.
Oui, un autre truc qui est super le fun par rapport à la fonction hasard de Wikipédia, c'est que vous pouvez chercher d'autres choses que des pages au hasard. Donc, vous pouvez chercher des utilisateurs. Oh mon Dieu, excusez, je vais arrêter de régler ça pendant que je parle. Vous pouvez chercher des utilisateurs si vous voulez stalker des gens qui utilisent Wikipédia au hasard. Vous pouvez chercher des fichiers en faisant un random file. Mm-hmm. Vous pouvez chercher des trucs d'aide. Vous pouvez chercher des catégories. Donc, il y a vraiment plein de sous-fonctions à cette fonction de hasard. et ce qui est le plus intéressant, selon moi, c'est de savoir... je vais juste prendre un autre micro. On va y arriver.
C'est correct?
Oui.
OK, parfait.
C'est de savoir, est-ce que c'est vraiment au hasard? Parce que, bien sûr, le hasard, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment. Mmh. Et on veut, bien sûr, savoir, est-ce que c'est vraiment le hasard quand on cherche quelque chose avec cette fonction-là? Eh bien, non. Ah. Ça utilise une fonction qui s'appelle... ça utilise une formule mathématique qui s'appelle... La Mersenne Twister.
OK.
Bien sûr, je suis tombée dans un loop en cherchant c'était quoi le Mersenne Twister. Mais en fait, pour vous expliquer brièvement, là, je suis pas du tout une mathématicienne, donc ça va pas être super clair, mais chaque article, quand il est créé sur Wikipédia, se fait aléatoirement donner un indice, donc un chiffre,
coefficient, genre, ouais.
un genre de chiffre qui est compris entre 0 et 1, donc ça va être 0, X nombre. Et dans le fond, la formule de hasard va chercher à travers ces nombres-là. Donc, ça va le chercher, mettons, le 0,12. Et ensuite de ça, ça va toujours rechercher entre ce chiffre-là et le prochain et un autre chiffre entre ce chiffre-là et le 1.
Okay.
Donc, ça va tout le temps aller en montant. Donc, oui, il y a un certain nombre de hasards, mais là, si on n'aura pas les articles qui sont entre 0 et ce chiffre-là. Donc, il y a toujours...
Ouais.
C'est une formule de hasard qui a été développée, le Mersenne Twister, puis qui est très, très, très connue. C'est très répandu. C'est une des... un générateur de nombres qui est le plus utilisé partout pour générer des nombres au hasard.
Notamment, oui, oui.
Ouais, c'est mm-hmm. ça. Et donc, c'est celui qui est utilisé pour Wikipédia. Et il y a plusieurs utilisations qu'on peut faire à l'intérieur de Wikipédia et à l'extérieur de Wikipédia pour avec le random article ou la page au hasard. Une de celles que je trouve le plus intéressante à l'intérieur de Wikipédia, c'est que trouve-t-on sur Wikipédia? Donc, en 2007, il y a un groupe qui a essayé de faire une espèce de moyenne de ce qu'on peut trouver, quel genre d'article on trouve sur Wikipédia. Et à ce temps, dans ce temps-là, il n'y avait pas nécessairement autant d'articles. Ça fait quand même presque que 10 ans maintenant. Mais ça pourrait être fait régulièrement par un peu n'importe qui. Et à sa grande surprise, ça a été fait en français. Là. Donc déjà, c'est un peu différent ce qu'il y a en français puis en anglais. Mais sur les 1000, il a pris un bassin de 1000 articles sélectionnés au hasard. Et c'est sur 1000-là, il y en avait 25% qui étaient des biographies, ce qui est quand même beaucoup. Mais on sait que sur Wikipédia en français, justement, les noms de villages et des biographies, là, ça arrête plus.
Tellement, c'est une de mes fascinations dans la vie. Ceux qui me suivent sur Facebook et mes amis savent que j'ai une grande fixation pour les villages drôles et les gentilés.
Les gentilés. Dieu sait qu'il y en a.
Et c'est débile, là. Oublie ça, là. Passer du temps sur Wikipédia, c'est un vortex sans fin.
C'est un vortex sans fin. C'est le but, je pense. Oui. Le but caché. Ensuite de ça, ben, ça, c'est pour en général. Mais si on y va plus dans le détail, il y aurait 25% d'articles, c'est sur des localités des transports, un 20% sur les arts, le divertissement, 12% les sciences, 12% l'humanité. Donc, ça continue comme ça. Seulement un 5% d'homonymie quand même. Fait que même si on a toujours l'impression de tomber sur des villages français, il n'y en a pas tant que ça sur le Wikipédia en français. Et seulement un maigre 1% sur la gastronomie. C'est quand même triste. Okay. Y a aussi, bien sûr, la Random Page Patrol, qui est une patrouille de Wikipédia. Donc, c'est un comité de contributeurs qui ont comme mandat d'améliorer les pages de Wikipédia et eux utilisent la fonction au hasard pour modifier ces pages-là. Donc, au lieu d'avoir un thème précis ou autrefois, j'entendais parler d'un homme qui, lui, règle une faute grammaticale. Donc, il va régler toute cette même faute grammaticale-là à travers tout Wikipédia. Bien, eux, ils utilisent uniquement la fonction de hasard et ils vont sélectionner, ils vont dans le fond modifier le style, le formatage, pas nécessairement le contenu. Là. Ça va être vraiment plus au niveau du style pour le rendre le plus intelligible possible dans le fond. Donc, ils vont surtout s'affairer à ça et ils sont, c'est une catégorie qu'on appelle les wikinomes parce que pour revenir à la wikifonde. Donc, c'est des wikinomes et ces wikinomes-là, dans le fond, leur fonction des wikinomes en général, c'est vraiment de corriger les fautes de frappe, la grammaire, les redirections, ajouter des catégories, réparer des liens.
Garder ça propre.
C'est ça.
Contrairement, comme les petits hommes au chapeau.
Exactement. Contrairement, par exemple, aux wikifairies qui, eux, vont plutôt embellir Wikipédia. Donc, ils vont améliorer le style, ajouter des couleurs, des images. Ils vont vraiment, tu sais...
C'est un peu genré.
Ah, oui.
Ben, peut-être quelque chose là-dedans. Du rapport homme-femme dans Wikipédia.
Oui, c'est ça. donc, c'est ça. Pour la Random Page Patrol, c'est surtout des Wikinomes. Et on peut joindre le cercle des Wikinomes, si on veut, de la Random Page Patrol aussi. C'est assez facile à trouver sur Wikipédia, bien sûr. Vous cherchez, vous avez le lien, tout est là.
Est-ce que, je veux savoir, parce que c'est vraiment une dimension qui n'était pas là quand j'ai fait mon mémoire de maîtrise, je trouve ça fascinant. Est-ce qu'il y a comme une hiérarchie dans la faune? Est-ce que, comme par exemple, si une fairy fait une correction qu'un gnome genre devrait faire, en théorie, est-ce qu'un gnome peut repasser là-dessus et l'éliminer? Est-ce qu'un orc a vraiment hiérarchie sur tout ça?
Je pense qu'il y a une certaine hiérarchie, oui, de ce que j'en ai compris, mais c'est surtout plus au niveau, il y a les bons et les méchants. C'est plus dans ce niveau-là.
D'accord.
On est plus dans le est-ce que t'es evil good ou evil... ou good, c'est neutral good et tout. Fait que je pense parce que les trolls, les wiki trolls, tu sais, c'est des gens qui sont chassés, qu'on va passer derrière eux pour justement corriger leurs erreurs. Donc, c'est un peu la même, tu sais, la même hiérarchie que dans le monde fantastique où tout le monde a sa job, tout le monde fait sa job, mais on peut justement contester un peu ça.
OK.
Et surtout combattre le mal, tous ensemble.
Dans le fond, c'est un GN sur Wikipédia.
C'est, si tu revois les catégories, c'est vraiment, vraiment. vraiment le fun.
Une autre catégorie, Meta, Facebook, là. Oui. Meta, ah non, Wikipédia, mais... je me suis trompée. C'est.
Non, mais c'est OK. Ouais,
des articles Wikipédia sur Wikipédia, oui, sur comment. Ben,
le random article, c'est mon exemple préféré, justement, de voir qu'est-ce qu'on dit sur Wikipédia. si vous voulez aller d'un côté plus ludique, il y a aussi le Wikilink Game. Donc, je vous réexplique rapidement. Le jeu, c'est de choisir un numéro entre 1 et 10. Le 8 est normalement le chiffre qu'on prend quand on joue pour la première fois ce jeu-là. Et donc, vous cliquez sur Random Article, vous lisez l'article jusqu'à temps que vous tombiez à mettons, le 8e lien. Donc, ah, okay. Et là, vous suivez ce lien-là jusqu'à temps que vous perdez. C'est un jeu qui se joue en groupe, bien sûr. Oh. Donc, tout le monde a son ordi, une soirée, vous n'avez rien à faire avec une bière. Et c'est le premier... dans le fond, vous pouvez y aller soit le premier qui perd, et après on recommence, ou jusqu'au celui qui dure le plus longtemps. Okay. Et il y a plusieurs façons de perdre. les façons de perdre, c'est en tombant sur un short page ending, donc il n'y a pas une page qui n'a pas de lien. Il y a le infinite loop ending, donc si vous retombez sur une page que vous avez déjà visitée. Empty link ending, si vous tombez sur un lien qui est, pour lequel il n'y a pas de page, un lien rouge, c'est comme ça vous êtes game over. Oh. Un offsite ending, donc si vous tombez sur une page qui n'est pas une page de Wikipédia comme lien. Et il y a le « No longer killing time ending » qui est vraiment mon préféré. C'est quand vous tombez sur un lien rouge et que vous décidez de l'éditer parce que soit qu'il est mal écrit ou qu'il n'existe pas. Donc, vous ne pouvez plus arrêter de perdre du temps et vous créez cette page.
Ouais, ouais.
Wow. Meilleure façon de perdre ce jeu. En dehors de Wikipédia, il y a aussi plusieurs choses que je vais essayer de couvrir très, très rapidement. Il y a le Wikipedia Names Your Band. Donc, c'est un meme qui a été créé par BuzzFeed dans lequel on utilise Wikipédia pour créer un meme. Donc, vous cliquez sur Random Article et le premier article, ça va être sur lequel vous tombez, c'est le nom de votre groupe. Ensuite, vous allez sur Random Quotations. Et là, les quatre derniers mots de la citation sont le nom de l'album. Et vous allez sur Flickr. Explorer les 7 derniers jours et la troisième image va être la couverture de votre album.
Ça, c'est super drôle.
Résultats sont hilarants. Donc là, vous compilez tout ça, vous soumettez à BuzzFeed votre pochette, puis là, vous avez un meme qui est créé.
Et puis, on peut voir, en tout cas, j'avais déjà joué à ça, puis on peut voir comme un genre émerger. C'est tout du prog new age.
Oui, mais c'est vraiment, ça crée quelque chose, là. C'est fou. Il y a aussi le Random Article Project, c'est randomarticleproject.com, qui a été créé par Jared Bellini et qui malheureusement n'existe. Il a arrêté de le mettre à jour depuis juin 2015, mais c'était un blog qui était aussi pour lui un exercice d'écriture où il visitait bien sûr le Random Article à tous les jours et il résumait en 150 mots ce qu'il avait, sur lequel il avait trouvé. Ce qui est le fun, c'est que c'est assez ludique aussi. Mm-hmm. Puis un peu drôle. Donc, sa dernière publication, c'était sur le Namwan Tunnel en Chine. Puis, c'est un tunnel à Hong Kong. Puis, il dit, contrairement aux croyances populaires, ce tunnel-là n'est malheureusement pas assez long pour traverser la Terre et se rendre en Amérique. Donc, tu sais, c'est à la fois, il vulgarise le savoir, puis en plus, il met des petites jokes. Donc, super le fun. Et finalement, moi, mon préféré, c'est le Wikipedia Random Article Collection, random-wikipedia.com. C'est une série participative de zines inspiré par la fonction random. Donc, vous utilisez la section random, je dis vous, parce que bien sûr, tout le monde peut créer ces zines-là, et vous utilisez le texte, les images, mais aussi tout ce qui entoure sur quoi vous tombez. Donc, quand vous tombez dans un trou noir puis vous suivez plein de liens, vous pouvez aussi utiliser ce contenu-là, et vous créez un zine à partir de ça. Puis c'est une collection qui est inspirée d'une pratique artistique qui s'appelle le Web to Print, où on utilise les engins de recherche et les algorithmes pour générer du contenu artistique.
Wow.
Et ce qui est le fun, c'est que cette collection-là, elle s'est ramassée quand même à la 55e Biennale de Venise en 2013. Il y a eu une espèce de petite book fair à l'ouverture du festival et elle a été dans la section Library of the Printed Web. Donc, c'est vraiment super le fun. Puis comme je vous dis, vous pouvez aller voir sur le site web pour voir les zines qui ont été créées et qui sait, peut-être créer votre propre zine.
Je suis tenté.
Et je finirai en disant qu'en pesant sur Random, en faisant mon article, je suis tombée sur le Empress Hotel Fitzroy North, qui est un bar à Melbourne que je me ferai un devoir de visiter si j'ai vu à Melbourne un jour parce que il est dans mon savoir maintenant. Il existe.
Excellent. Il y a aussi un auditeur fidèle et qui est déjà venu à l'émission, Laurent Boutin, qui avait parlé d'un jeu sur Wikipédia avec le Random Article. Donc, il faut être deux. Les deux cliquent sur le Random Article en même temps. On décide quel article est le plus awesome et on se donne un point à chaque fois. Ouais. Et il y a un point de malus quand on tombe sur un département français.
Oui, j'ai beaucoup joué à ça il y a une dizaine d'années. Là.
OK, moi, j'ai jamais joué à ça.
Oui, ouais, vraiment. Quand t'as rien à faire, là, t'as deux ordi. C'est
Wikipédia et breuvage alcoolisé. Enfin, réunis. Ouais.
Que veux-tu de plus? Que veux-tu de plus?
J'ai hâte de revenir à la maison. Là.
Merci beaucoup à tout le monde autour de la table. Merci à Maxime Robin, à la régie qui a pu arranger les micros lorsqu'il y en a un qui a tombé. Vraiment, bravo Sophie. Donc, je vous laisse là-dessus et on se voit la semaine prochaine.
Tu as un intérêt marqué sur un sujet particulier? Jusqu'au 4 mai, soumets ton projet d'émission et tu pourrais devenir un des collaborateurs de Choc.ca dans notre programmation d'été 2016. Tous les sujets sont permis. Information, sport, environnement, politique, humour, musique, culture, contre-culture. Cet hiver, joins-toi à une équipe diversifiée qui axe son travail sur la découverte du monde sous un œil différent et qui nage à contre-courant de la culture de masse. Pour toutes les informations, www.choc.ca/s'impliquer. Le 9 mai, c'est la grande finale des Francouvertes. Participez au choix du lauréat 2016 parmi Qatar Bateau, La Famille Ouellette et Mondou Seigneur. Dès 19h30, vous pourrez assister à une prestation des porte-paroles Corias et Vincent Pic. 20 ans Francouvertes, ça se fête. Pour plus d'informations, francouvertes.com. Les Francouvertes, une présentation de Sirius XM.
Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca.